tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Il y a quelques jours, nous avons reçu dans les studios de Radio Grenouille Noël Akchoté à l'occasion de sa venue au festival Mimi, où il a pu présenter sa dernière création musicale autour de l'œuvre de Carlo Gesualdo. À cette occasion, donc, nous avons réalisé cet entretien exclusif d'une heure avec Noël Akchoté, ponctué par sa musique. Et c'est avec un énorme plaisir de recevoir dans les studios Noël Akchoté. Noël Akchoté, bonjour.
Bonjour.
Noël Akchoté, très rapidement pour présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas, tu es guitariste.
Ouais.
Tu es guitariste et tu as travaillé entre autres, et tu vas dire si je me trompe, mais tu as travaillé entre autres avec Fred Fritz,
ouais.
Avec Luc Ferrari, avec Jean-François Pauvros, avec Marc Ribot.
Philippe Catherine, David Sylvian, Vladimir Kosma.
Et tu fais partie de ces musiciens qui prennent à contre-pied, disons, le petit monde de la musique ou le petit monde des arts tout court, qui a l'habitude de s'attendre à, disons, une production qui rentre dans les cadres. Et toi, tu décadres régulièrement en proposant des compositions qui détonnent par rapport à la liste, par exemple, des auteurs ou des musiciens qu'on vient de donner.
Ouais, qui recadrent, enfin, je sais pas. Il y a, comment dire, pour moi, les choses, elles sont basées sur les rencontres, quoi. Donc, les gens, il n'y a pas de limite. Et ces rencontres, elles font toujours sens, mais on le sait après. Il faut commencer par goûter pour savoir ce que c'est, quoi. Bon, c'est un peu comme ça que je fonctionne, quoi. Et ces cases, elles existent, en fait, pour pas grand monde, quoi. Dans la pratique, je vais aller directement dans le sujet. Le dernier album des Daft Punk, c'est un album d'amour. C'est un hymne à l'amour aux gens qu'ils écoutent depuis qu'ils sont petits, puis avec qui ils ont produit cet album. Et moi, je vois des gamins de 16 ans, de 18 ans, qui réagissent complètement là-dessus, quoi. En disant, waouh, on connaît pas ça, on n'était même pas nés et tout. Qu'est-ce qu'on va acheter un tas de disques. Voilà. Donc, c'est la meilleure preuve que les cases, elles veulent pas dire grand-chose, quoi. Quand la musique touche, elle touche tout le monde, quoi.
Et par exemple, on pourrait dire que c'est pas tant le jazz comme genre finalement qui t'intéresse, mais plutôt comme manière d'être à la musique.
Ah ouais, probablement. Mais le jazz, moi, ça a été mon premier choc quand j'avais 11 ans, j'ai rencontré. Comme ça, par hasard, je me suis retrouvé. C'était une époque, c'est le début des années 80, fin 70. C'est une époque où le jazz était assez down. Enfin, ça jouait plus dans des clubs, ça intéressait plus trop personne. Et on m'a amené comme ça à boire un dernier verre et je suis tombé en face de gens. Personne m'avait jamais parlé de ça à l'école. Ça m'a fasciné. J'ai suivi ces gens, quoi. Et puis, comme il n'y avait pas de gamins à l'époque, ils m'ont pris sous leur aile et bras. Mais après, ces gens-là, ils sont morts. D'abord, la première chose, c'est qu'ils m'ont jamais dit qu'il fallait faire pareil. Enfin, ils n'avaient pas inventé une formule définitive. C'est un art de vivre, c'est une façon d'être, quoi. Et après, ils sont morts, donc il faut continuer à jouer. Il faut peut-être continuer à voir la vie de ce côté-là, quoi, et voir ce qu'elle amène.
Et qu'est-ce que ce serait donc une manière d'être jazz ?
Je pense que c'est lié à l'improvisation au moment. C'est une espèce d'excitation extrême du moment, parce que le moment va... Si tu le cadres, le moment, avant qu'il arrive, tu vas vivre le moment que tu as décidé de vivre, donc ça n'a pas grand intérêt. Alors que si tu le laisses venir, il va t'apprendre beaucoup de choses qui sont très contradictoires avec l'envie de cadrer.
J'ai pu lire, par exemple, dans un article que tu disais que tu étais musicien de swing et de variété.
Ah oui, moi je viens du swing et il y a toujours eu un lien entre la variété et le swing. Ouais, je viens de là, c'est vraiment moi mes bases, mes racines, quand je retourne à des choses, c'est ça, quoi. Après, quelle application ça a ? Moi, j'ai un truc, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai aucune capacité au style. C'est-à-dire, quand tu me dis, je vais passer le dernier truc de machin, ça peut être du métal, ça peut être de l'électro, ça peut être je vais réagir à ce que les gens proposent, à ce qu'ils diffusent, à ce qu'ils donnent.
Alors pour cette émission, pour ce dialogue que nous avons là tous les deux, tu nous as proposé une petite playlist, un petit parcours musical. Est-ce que tu peux me dire, tu as à peu près sélectionné 6 morceaux,
oui.
Qu'est-ce qu'il donne comme direction, s'il y en a une, cette sélection
là ? Que des amis. Je sais, que des choses qui me font plaisir et pourquoi pas. Une ligne directrice là-dedans ?
Ouais, s'il y en a une qui se dégage.
Si j'ai... de façon enfin de la façon la plus humble possible, mais bon, c'est une espèce de miroir, quoi. Enfin, c'est, mais sauf que j'ai aucune réflexion là-dessus, puis ça m'intéresse plus. Je crois que j'ai passé l'âge aussi avant je me posais des questions de savoir si ça était, si ça va, les gens vont comprendre et tout. Puis ça me semble tellement naturel que, donc voilà, c'est un miroir qui passe par des choses effectivement qui peut sembler qui peuvent paraître hétéroclites, quoi. Mais je sais pas, passer de Camille à Macho, mais Camille elle chante Hildegard von Bingen. Pâcher de ça à mon frère qui fait l'électro. Enfin, l'électro, moi, quand je les croise, les mecs, en fait, on parle la même chose. Ils ont le même éditeur que quand on avait il y a 30 ans. Il y a des liens comme... Ces liens-là, ils m'intéressent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus réels, ils sont beaucoup plus directs, quoi.
Le miroir n'a pas besoin d'être cohérent.
Oh non, miroirs s'en fout.
Les miroirs s'en fout.
Le miroir s'en fout totalement.
Et le miroir, sans doute, reflète toujours une image fractale, non? Et jamais une image.
Comme disait Lacan, le message n'arrive que sous sa forme inversée.
Alors, ce que je te propose, non, c'est qu'on écoute un peu peut-être cette ouais. premier choix. Donc, Camille, tout dit, ça s'intitule.
Alors, c'est un titre qui est sur le dernier album de I Love You, mais avec une orthographe. Je ne vais pas me lancer dans le... Je ne suis pas sûr de l'orthographe, mais très drôle. Camille, c'est une chanteuse vraiment unique qui me touche. Qu'en plus j'ai non rencontré pendant des années parce qu'elle était à côté pour des raisons, elle était avec quelqu'un qui était proche d'une bande il y a très longtemps et puis quand j'ai commencé à entendre ce qu'elle faisait, ça va au bout à chaque fois, quoi. Et pour moi, avec une écriture différente, c'est quelqu'un qui me touche. Ça fait partie des gens avec lesquels j'irais bien passer longtemps, du temps à travailler. Et puis je l'ai entendu récemment, il y avait l'émission de radio, elle a fait ce truc sur Hildegard von Bingen, qui est donc une mystique du Moyen-Âge, des chants a cappella. Et ça fait le lien avec ce qu'on va venir jouer ici, Gesualdo, c'est-à-dire que tous les gens qui tout d'un coup reprennent en main ces musiques qui sont pas des musiques. La musique classique, c'est une invention du 19e, on va dire, en gros. Et la façon de la jouer classique, c'est quelque chose qu'on traîne depuis cette époque-là. Mais la musique, avant, elle se jouait de la même façon qu'elle se joue maintenant, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir une radio rap ici, tu vas avoir une radio électro, tu vas avoir machin. Il y a un tas de pratiques différentes. Et que des gens qui viennent pas du sérail, qui viennent pas de ces musiques classiques, reprennent ces répertoires pour en faire quelque chose. La façon qu'elle a eu de le faire, moi, c'est peut-être la plus belle version que j'ai. Parce qu'il y a des disques, on va dire, il y a des disques de référence comme ça, avec des filles qui n'ont pas de tempo, qui n'ont pas vu beaucoup de mecs, enfin, etc., etc. Alors que c'est pas du tout ça. Et ça rentre. C'est une version solo que j'ai faite de cette chanson. Et qui est dans une série que je fais depuis longtemps. J'avais commencé par cet album avec Kylie Minogue, mais qui est de reprendre plein de choses de la pop pour voir où ça nous emmène.
On écoute un morceau. Thank you. fond que ce soit le travail que tu as inauguré comme ça avec Kylie Minogue et qui se poursuit là avec le Camille, tu me disais il y a Britney Spears et Daft Punk et d'autres.
Paris Hilton.
Finalement, dans ces reprises, est-ce qu'il n'est pas, est-ce que pour toi, musicien, ce serait pas la prise de conscience que nous n'entendons pas de la même manière ce que nous partageons, au sens où que nous n'avons pas la même écoute. Et que la reprise nous fait entendre cet écart-là à même ce que nous entendons. Très souvent, nous pensons que nous écoutons tous la même chose, mais il y a un écart. Et le travail que tu fais, finalement, dans tes jeux d'écoute de Kylie Minogue, écoute de Daft Punk
et de
reprise, ouais, de mettre le doigt dessus sur cet écart, que l'écoute n'est pas la même.
Bon, on est tous des produits culturels des États dans lesquels on est né, dont on a le passeport souvent. En France, il y a quand même eu une grosse chape de plomb sur la musique. C'est pas un pays musical, ce qui est faux d'ailleurs dans l'histoire, hein, parce qu'il y a énormément de musique qui vient d'ici. Il y a des exceptions, par exemple, voilà, comme je suis dans les musiques anciennes, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Robert de Vizé, qui était le guitariste de Louis XIV. Et la guitare, c'était un instrument de bordel, en gros. C'était pour accompagner les putes. Et le roi, non, il aimait beaucoup, donc il lui a commandé des pièces pour le coucher, qui étaient des choses publiques, quoi. Donc, il y a plein de choses qui contredisent. Mais en France, il y a cette espèce, quelqu'un qui fait quelque chose de sérieux, il fait un livre, quoi. Enfin, il va dans la série Blanche Gallimard, quoi. Et donc, on a un drôle de rapport au son, quoi. Même des choses qui sont, par exemple, des émotions sonores comme Jean Moulin au Panthéon avec André Malon qui disait, entre ici, voilà, c'est des choses incroyables. Et en même temps, on sait pas trop par quel boulet c'est, on sait pas si c'est de la comédie, du cirque, du jeu. Il faut toujours mettre des noms sur les choses. Et la France, je pense qu'elle a un certain problème avec la musique, quoi. C'est trop sensuel, ça lui fait un peu peur, quoi.
Est-ce que c'est pas aussi parce que la musique, par exemple, je pense aux joueurs de pipeau, comme la musique aussi envoûtement et qui peut nous envoûter, et qui peut nous dirais-je faire perdre notre conscience d'une certaine manière et nous aveugler.
Le politique s'en méfie parce que oui, effectivement, ça. Voilà, c'est comme, je sais pas moi, il y a des grands noms de la chanson en France, et encore maintenant, il y a des gens comme Johnny Hallyday où personne ne sait trop comment se placer. C'est-à-dire, dès qu'on arrive à un certain niveau, alors que, c'est assez génial comme parcours, quoi. Les gens devraient être fiers de ça. Et ils n'ont pas aussi besoin, il n'y a pas toujours besoin de s'identifier à le fait que Johnny Hallyday, il existe. Et en plus, il y a un truc assez marrant, c'est que Johnny, c'est un mec qui écrit pas de texte, quoi. C'est un interprète, quoi. C'est vraiment, c'est un acteur, quoi. Mais c'est un type qui a toujours été chercher les bonnes personnes, et on a toujours besoin de se dire, ah oui, mais ça c'est cool, ça c'est pas cool, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça. Donc, moi, je sais pas, j'ai un autre rapport. Les sons, ils parlent, les musiques, elles parlent. Il y a des choses qui disent, ici, quand t'es à Marseille, puis quand tu vas dans un café, il y a des accents, il y a des façons de parler, c'est de la musique, quoi. C'est un jeu, même si c'est totalement inconscient. Enfin, cette espèce de truc, il y avait deux vieux, on buvait un pastis, il y avait deux vieux derrière qui racontaient, c'était vraiment, on aurait dit une blague marseillaise, quoi, mais machin était pêcheur et l'autre était, et puis racontait absolument n'importe quoi. C'est un jeu totalement sur la musique de la langue, quoi. Sauf qu'ici, on va avoir tendance à en rester sur le mec, il a dit un truc, c'est faux, c'est, enfin, il a menti, ou il a rendu énorme un poisson qui était petit. Alors qu'en fait, tu vois, il y a une espèce de, comment dire, d'orgasme qui vient du fait d'utiliser sa gorge et de faire des sons avec, des sons qui font du bien, quoi.
Et ça veut dire aussi en même temps qu'on est dans un moment où, si tu veux, il n'y a plus de musique ou il n'y a plus de style qui fait autorité. Et par conséquent, on n'est plus obligé uniquement d'hériter finalement d'une direction ou d'un repère, et qu'on a la possibilité aujourd'hui d'être auteur de nos propres repères, quoi, d'une certaine manière.
Oui, oui. Il y aura toujours ces trucs générationnels, c'est-à-dire que la musique, elle a un aspect éminemment. La plupart des gens, ils n'écoutent pas vraiment la musique. Ils vivent avec, quoi. C'est la bande son de leur vie. Donc il y a ce truc qui est quand même majeur dans la musique, dans toutes les musiques, qui est le côté générationnel. C'est vraiment cette musique, elle correspond à différents moments de ta vie, quand t'as 15 ans, quand t'as 20 ans, quand t'as 30, quand t'as 50. Il y a des musiques qui correspondent, qui sont une espèce de bande son de ta vie, quoi.
Quand tu dis qu'on l'écoute pas, c'est-à-dire, et qu'on la vit, c'est-à-dire qu'elle est corporelle immédiatement. La danse, on la sifflote, mais on l'écoute pas vraiment.
Bah, quelqu'un qui va danser dans un club et qui danse sur un dernier titre qui est vachement bien foutu, le fait qu'il soit vachement bien foutu, ça le concerne pas vraiment. Mais le fait que ça soit vachement bien foutu, ça le fait danser, par contre. Mmh. Et ce qui l'intéresse, c'est le fait de pouvoir danser là-dessus. Et ça s'applique à n'importe quoi. Les gens qui vont à l'opéra, la plupart des gens, ils ont aucune idée de si l'interprétation est bien. Mais tout d'un coup, ils sont en face d'un spectacle qui est assez unique. Et donc, ils vibrent à ça, quoi.
C'est-à-dire qu'ils ne la réfléchissent pas.
Non. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on garde la musique un peu comme ça sous cloche. On fait attention à la musique parce qu'elle génère des choses qui sont pas contrôlables, quoi, qui sont trop directes, quoi. Enfin, je sais pas. On parlait de ça tout à l'heure, mais moi, je pense souvent à ça. Je vais parler de... quand on parle de crime contre l'humanité, je pense toujours à l'inverse, moi, de ce que des gens ont contribué à l'humanité, quoi, qui n'existait pas avant. Et tout à l'heure, on parlait de Michael Jackson, mais bon, Michael Jackson, c'est quelqu'un que tu ne peux pas classer, tu ne peux pas le mettre dans... Effectivement, il est à Paris, il vient d'un truc plus ou moins black, mais enfin, c'est pas vraiment black, etc. C'est quelqu'un qui a fait un truc universel, tout simplement universel, quoi. Voilà. Et ce genre de choses-là, elles parlent aux gens, je pense, directement. Mais après qu'ils aient conscience de... Moi, comme musicien, en plus, si j'écoute, je sais pas, Off the Wall, quand je vois la liste des gens qui ont joué dessus, que je sais que c'est Quincy Jones, c'est comment ça a été produit, en plus, je veux dire, sur le papier, si tu décortiques le truc, c'est énorme. Mais c'est pas ça, c'est juste, ça a un effet hypnotisant. Enfin, ça fait du bien aux gens, quoi. C'est tout simplement. Quand t'écoutes un truc que t'aimes, ça te fait... Tu te poses pas la question, je sais pas moi quel. Il y a sans doute, tu vas avoir sans doute des chanteurs que t'as écoutés parce que tes parents les écoutaient, puis des chanteurs que t'as écoutés parce que à 17 ans c'est un disque qui t'a marqué, et t'auras toujours un lien particulier avec ça, et t'as pas besoin de plus d'analyse par rapport à ça. Enfin je sais pas, là tu vois un mec comme Daniel Dark qui est mort là, il a touché certaines personnes sur certaines choses. D'abord parce qu'il était, vrai, il était foutraque, il était en miettes, mais il était vrai en même temps, et que les gens qui ont cru, ils ont eu raison d'y croire, quoi. Et qu'il y a quelque chose avec sa voix qui sans doute parlerait pas du tout à des gens qui n'ont pas écouté ça à cet âge-là. Mais eux, pour les gens qui ont découvert ça à ce moment-là, ça a marqué quelque chose. Voilà, c'est cette voix de cette chose qu'on peut pas... On sait pas comment dire cette instance qu'on ressent. Lui, il l'a condensé. Ou je sais pas, moi, par exemple, un certain rapport aux États-Unis, dans la voix d'Alan Vega ou de Suicide, des groupes comme Martine Rêve, par exemple, pour moi, c'est... Voilà, c'est... Pourtant, sur le papier, il n'y a pas grand-chose et c'est magique à chaque fois. Quoi.
Je pense à la voix d'Alan Ginsberg, par exemple, de la Beat Generation, ses poèmes Hall, qui, à un moment donné, communique avec le free jazz, d'une certaine manière, dans ses accélérations. Alors, en même temps, tu dis, effectivement, la musique, on l'habite, on ne la réfléchit pas. Et en même temps, toi, tu écris aussi sur la musique. Tu écris pour la revue Stuc, une revue autrichienne.
Ouais, puis pour d'autres revues. Mais ça, c'est pour d'autres raisons, en fait. J'ai écrit parce que moi, en ce moment, par exemple, on est dans une radio. Donc, moi, j'écoute la radio toute la journée. De voir, je dors avec la radio, quoi. Alors, il y a eu différentes époques parce qu'il y a différents centres d'intérêt. Donc, des fois, je sais pas, il y a 15-20 ans, France Culture, c'était intéressant parce qu'on entendait des choses qu'on n'entendait pas. Aujourd'hui, ça récite un peu le programme du ministère, donc ça m'intéresse point. Mais par exemple, j'écoutais RMC tout le temps. Il y a quelqu'un comme Brigitte Lay, c'est quand même, que la France écoute. Ouais, elle a encore 23 minutes d'antenne sur RMC. Elle est à moitié dyslexique, enfin voilà, c'est ça. Il y a un truc qui est très intéressant avec la radio, puisqu'on est dans une radio, c'est que t'as toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées, la radio elle a jamais tombé, quoi, elle fait que monter.
C'est étonnant ça. Comment tu l'expliques ça?
Mais c'est quand même, ça veut bien dire que ce pouvoir du son, ce pouvoir de l'instant, par exemple, c'est improvisé toujours les émissions de radio. Quand t'écoutes un live avec un grand présentateur, quelqu'un qui a cette façon de... Une fois de plus, c'est comme les styles dont on parlait tout à l'heure. Moi, je me fous de savoir dans quel cas il est, un mec comme Jean-Jacques Bourdin, mais c'est un mec qui est un vrai professionnel de l'antenne et qui sait faire sortir des choses des gens. Bon, ben voilà, c'est-à-dire que les gens, ils écoutent parce que tout d'un coup, il sort quelque chose qui sort pas ailleurs ou c'est contrôlé, quoi. On était parti d'où ?
On était parti sur le fait que tu écrivais sur la musique, malgré le fait qu'elle n'était pas nécessairement réfléchie.
Et je parle de ça parce que depuis 2-3 ans, en fait, à cause de RMC, j'écoute des sportifs. Ils ont 8 heures d'antenne sur RMC, les foot. Moi, je connais rien au foot. Ouais. J'ai souvent été avec des gens qui étaient fans de foot, mais y a un film qui vient de sortir là de Riton Liebman sur... comment ça s'appelle ? C'est un acteur belge, c'est celui qui joue dans La meilleure façon de marcher, le film avec Carole Laure et Depardieu et Devers, qui joue le gamin, qui est un acteur belge, et qui a fait un truc sur un fan de, comment ça s'appelle ? Le Standard, je crois que c'est le club de Liège ou un truc comme ça.
D'accord.
Et donc j'étais souvent entouré de mecs qui étaient mais c'est leur vie entière est basée là-dessus, ils lisent que l'équipe, quoi, si tu veux. Et éventuellement Le Monde pour avoir un contre-avis, mais que les pages sport, quoi. Et là, j'écoute des gens de sport qui sont là, qui n'arrivent pas à parler. Ils font pas des... Enfin, par exemple, la façon qu'a Ribéry de parler, c'est quand même un truc, c'est fantastique, quoi. Il fait une faute, mais il fait des fautes qui sont c'est du Prévert, quasiment. Et ces mecs-là, ils sont à fond tous les jours, ils parlent de trucs. Je sais même pas ce que c'est, parce que je les regarde pas. Moi, j'ai pas les chaînes, je regarde pas les... Puis ça me fait plutôt chier quand je les regarde, en fait. Mais j'ai des... Bon, voilà ce genre de choses-là, si tu veux. Il y a un truc de passation, quoi. Il y a un truc d'enthousiasme, il y a un truc de...
Oui, c'est plus du coup écrire ou en parler, plus par une sorte d'enthousiasme ou une nécessité, comment dirais-je, parce que ça nous anime, que véritablement une sorte d'exégèse.
Ah oui, sinon c'est pas il y a pas de théorie. Mais c'est-à-dire que dans nos milieux, personne ne parle de sa pratique. Ça, c'est un truc qui m'avait marqué dans n'importe un mec qui est cordonnier, un mec qui est menuisier, un type qui est cuisinier. Tous ces gens-là, d'une façon ou d'une autre, c'est pas qu'ils écrivent, c'est pas le fait d'écrire, mais enfin, ils ont une réflexion sur leur travail et ils en parlent. Et quand ils en rencontrent un autre, c'est pour en parler, quoi. Moi, je sais pas, quand j'étais à Lyon, quand tu voyais des cuisiniers, le premier truc, c'est qu'ils discutent de beurre blanc, de machin, de... Et dans la musique, on parle de matos comme ça, mais les gens écrivent pas sur leur pratique, sur comme un clinicien, tu vois. Je sais pas, moi, chez les Toubibs, t'as un type, par exemple, qui s'est spécialisé dans tel domaine, et ça fait 30 ans qu'il en voit des types, et ça lui a permis quand même de voir qu'il y a certaines familles. Et dans la musique, je sais pas, les gens parlent, c'est très, très, très rare. T'as des livres d'entretien, t'as des livres de fans, de machin, mais les gens, ils parlent pas de leur pratique, de comment, qu'est-ce que c'est, par exemple, je sais pas, moi, si t'es un chanteur un peu connu et que tu fais les francopholies ou ce genre de truc-là, qu'est-ce que c'est de monter devant, qu'est-ce que ça veut dire de chanter devant, c'est quoi chanter devant ces gens-là, quoi?
Et du coup, par exemple, avec Joël Léandre, vous avez parlé de la pratique dans les entretiens que vous avez eu ensemble?
Par exemple, ouais. Bah, Joël, elle a un discours de sur ces choses-là qui sont, par exemple, dit à un moment, voilà, je suis une femme, je suis contrebassiste, la contrebasse, c'est derrière, ça fait des rondes, Et puis, pourquoi on est toujours derrière? Pourquoi personne n'a écrit de la musique qui peut... Nous, on peut jouer maintenant, on peut jouer, on peut aller plus loin. Pourquoi personne n'en écrit? C'est son parcours à elle, par exemple, Joël. C'est d'avoir chopé tous les prix du conservatoire avant 20 ans, à 18 ans ou 19 ans, et d'aller voir des gens qui étaient vivants, qui composaient, des gens comme Cage ou des gens comme Chelsea, en disant, oh, maintenant, il faut écrire pour cet instrument, hein, parce que ça suffit de faire... Donc, il y a toujours cet aspect politique, quoi. Et donc, moi, ma raison d'écrire, c'est ça, c'est juste de continuer à faire... là, sur le dernier Daft Punk, avec mon frère, il y a ça, ils ont un... C'est des gens que j'aime vraiment beaucoup, ils sont très, très touchants, quoi. Et ils ont une façon de... Ils ont une façon de parler qui est un peu... Ils font pas des phrases, ils ont du mal avec... Et mon frère, il est un peu là-dedans aussi. Il ressent plein de choses, hein, et puis ça sort d'une façon ou d'une autre. Et en même temps, cette façon de dire les choses sans les dire, elle dit beaucoup plus de choses, finalement. Elle dit le fait que t'es pris par beaucoup d'émotions, bah, plutôt que de dire, ah oui, machin, ça, voilà, de disséquer la bête, ou tu vois, d'analyser les choses.
Tout ne passe pas par le langage ou le logos, quoi.
Heureusement. Ouais.
Le deuxième morceau que tu nous as proposé, c'est Macho, malade.
Guillaume de Macho. Macho, c'est un hit disco à MMN, d'Italo Disco de 76, un truc comme ça. Avec une pochette géniale, avec un torse poilu. Et non. Et alors moi, je passe Guillaume de Macho, c'est 14e siècle. Et mais c'est toujours le même, c'est des histoires pour draguer les gonzesses, quoi.
Aussi?
Ah bah oui, c'est quand même, il parle que d'amour, hein, c'est des chansons de gestes et c'est que lié à ça, quoi, à la drague, au sentiment. Et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. On joue un titre, on jouera d'ailleurs, c'est le dernier morceau du programme qu'on va jouer ici. C'est du vieux français, quoi. De fortune me doit plaindre. C'est du blues, quoi.
C'est clair. Dit comme ça, on l'écoute.
Avec
cette reprise de chansons de gestes et puis ce que tu travailles aussi en ce moment et qu'on écoutera donc pendant le festival Mimi, ton travail de reprise autour de la musique aussi de Carlo Gesualdo qui est 16e siècle, hein, entre ouais. baroque et renaissance. Je me disais, mais pourquoi aller chercher des formes anciennes ? Est-ce que c'est parce que justement elles sont anciennes qu'elles peuvent se révéler finalement novatrices ?
En fait, c'est pas des formes anciennes. Dans le cas de Gesualdo, mais même d'autres choses, c'est pas tellement la forme, moi, c'est la voix. Il y a un truc, c'est que toutes les œuvres, elles sont toujours au présent, quoi. Si tu peux lire un livre d'il y a 3000 ans, si ça a une certaine densité, c'est au présent, quoi.
C'est la voix plus que la mélodie ? Je veux dire, plus que la musique.
Et par la voix, j'entends la personne, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a plein de gens qui sont morts avec lesquels tu vis au quotidien, quoi. Enfin, je sais pas, moi.
Parce que bon, par exemple, Carlo, il y a certes sa musique, mais il y a aussi le personnage, quoi. Disons, c'est quand même un personnage.
Mais ça, en fait, c'est. Bon, après, ça, c'est l'habillage du truc. Il y a un mec. L'autre jour, j'entends. Il y a un mec qui a fait une biographie là, de Mourouzi, par exemple. Mourouzi, c'est un drôle de personnage, quoi, qui est vraiment marqué par une époque, en même temps qu'il l'a vraiment marqué, qu'il l'a aussi. Bon, ce type-là, il n'existe plus, et c'est un style. C'est comme, je sais pas, certains acteurs, certains moments, c'est des choses avec lesquelles tu vis, quoi. Et quand tu vas chercher des œuvres, tu tombes sur des choses qui sont... quand tu vois un film, peu importe s'il a été fait il y a 30 ans, 50 ans ou la semaine dernière, quoi. Si quelque chose te marque dedans, c'est au présent, quoi.
Une manière, un geste.
Chanson de geste, c'est une très belle scène.
L'accent de Jean Gabin, par exemple.
Ouais. Oui, une façon de déconner. Le truc de Jean-Yann, par exemple, qui est quand même mec qui a fait des très très hautes études, qui était spécialiste en archéologie et en histoire, et qui faisait n'importe quoi sur les grosses têtes, c'était drôle parce que tout d'un coup, il partait de choses vraiment sérieuses, quoi, pour en faire n'importe quoi. Bon, c'est un truc, il n'y a pas d'équivalent, et c'est très bien. Voilà. Et puis, tu peux avoir dans d'autres domaines une telle parole ou telle parole. Je sais pas, l'autre jour, il y a quelqu'un qui a repassé ça. Ils ont avec les sites internet, maintenant, il y a plein d'archives qui sortent, quoi. Il y a un fameux entretien, je crois, en Suède ou au Danemark, entre Chomsky et Michel Foucault, où il le bouffe, mais Foucault, il le bouffe complètement tout cru, quoi. Mm-hmm. Bon, voilà, c'est un truc... et ça marque vraiment cette époque-là, et en même temps, c'est que lui, c'est un style, quoi. C'est une personne, quoi.
Et en même temps, Carlo, par exemple, le travail que tu fais avec cette musique, c'est pas un travail par-dessus la jambe, quoi. Je veux dire, il y a une vraie connaissance de cette musique, et il y a un vrai respect aussi de cette musique.
Ouais, mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est en fait, une fois de plus, quand je dis que les œuvres, elles sont au présent, c'est-à-dire quand tu prends ces musiques-là et que tu commences à les jouer, quelque chose se passe. Ce type-là, il a inscrit quelque chose qui était pour lui central, quoi, qui était quelque chose de vital, quoi, qui était peut-être aussi un autoportrait, quoi. Et il suffit de la jouer tous ensemble pour que ça prenne vie.
Il y aurait une musique qui serait autoportrait pour toi par rapport aux musiques que tu as faites.
C'est, ouais, quand
c'est
mort,
étonnant,
ouais,
de penser en termes de peinture, par exemple, là, pour le coup.
Non, parce que c'est un exercice, c'est un truc qui est justement plus formel dans la peinture, mais qui existe dans n'importe quel domaine. Ouais, c'est toujours un miroir, quoi. Parce que tu peux pas proposer autre chose.
Donc toutes les musiques seraient un peu.
Ce qui est intéressant quand t'es traversé par un tas de choses, d'émotions, c'est de les rendre sans forcément les intellectualiser, sans passer par une réflexion, les rendre de façon. Je sais pas, moi, quand on était à Lyon avec certains chefs, comme ça, il y avait ce truc où ils étaient invités parce qu'ils se faisaient chier. Bon, c'était très cher, donc la clientèle, elle était un peu. C'était un peu le lac de Genève, tu vois. Donc, ils se faisaient un peu chier, quoi. 2000 boules le point, quoi. Et le mec, il faisait un truc, il invitait d'autres gens, il disait tiens, je te cuisine ça, joue-le-moi. Bon, ben, c'est de la même façon, quoi.
Ça, c'est l'improvisation, là. Hein.
Non, c'est la vraie vie. Non, c'est juste la vraie vie, quoi.
On pourrait imaginer par exemple que là à la radio, moi je pose des questions et toi tu réponds en jouant de la guitare.
Ouais, c'est pas forcément de cette façon. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est d'une façon, c'est l'improvisation. Par exemple, pourquoi on a inventé ce terme qui veut strictement rien dire? Parce que tout le monde improvise. Là, qu'est-ce qu'on fait d'autre qu'improviser? Bon, tout le monde improvise. Quand tu vas dans un supermarché, t'as fait une liste de courses, mais la plupart des gens ont fait une liste de courses pour acheter exactement tout ce qui est pas dessus, quoi. Mm-hmm. Bon, ben, c'est improvisé, quoi.
Oui, donc en fait, l'improvisation est toujours là.
L'improviser, c'est le fait d'être vivant, de pas être mort. Mort, c'est quand c'est imprimé sur le livre et que ça bougera pas. Voilà.
Et il y a des musiques improvisées qui finissent dans l'objet disque.
Bah, s'ils aiment ça, tant mieux. Ils sont fous.
Le quatrième morceau que tu nous as choisi, c'est une variation. Et là, cette fois-ci, c'est la musique composée par Sébastien, ton frère aîné.
Ah non, non, il a 12 ans de moins que moi.
12 ans de moins que toi.
C'est moi l'aîné.
C'est toi l'aîné.
Ouais.
Alors là, c'est quoi? C'est un lien intime avec le frère
ou... C'est très drôle, on n'est pas d'une famille de musiciens, il n'y a pas de musiciens, nos parents ils sont architectes, non, il y a des gens dans la politique, enfin bon, il n'y a pas de lien de musique quoi. Et puis moi ça m'est arrivé comme ça, et puis lui, sans lien, c'est pendant des années, je ne savais même pas qu'il faisait de la musique quoi. Bon, je savais qu'il avait un groupe de rap il y a très longtemps, tout ça comme ça, mais enfin, c'était assez flou, quoi. Et tout d'un coup, il fait de la musique, on fait une musique qui a rien à, enfin, qui est formellement totalement différente. Moi, je suis un instrumentiste, lui, il joue des machines, enfin, ça fonctionne de façon très différente. Et puis, en même temps, on se parle tout, on se découvre un tas de choses, un tas de points communs. Bon, on est tous les deux des, on passe 18 heures par jour, quoi. Un truc, c'est... En fait, dès que tu fais ce genre de travail de création, l'autre jour il y avait une émission d'ailleurs sur la maison de Brassens, c'est exactement la même chose. Enfin bon, dès que quelqu'un produit des choses, ça fonctionne toujours de la même façon, quoi. C'est-à-dire, il filtre tout, faut surtout pas le déranger. Quand il sort, il est totalement dispo. Tu vois, là, je suis totalement dispo, mais dans deux heures, tu me parles, je suis pas là, quoi. Et Seb, en fait, il fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'à 5 heures du matin, on s'écrit parce que moi, je me lève, lui, des fois, il termine un mix et il fait que ça, quoi. Et en fait, on se retrouve beaucoup plus là-dessus, sur le fait de sans savoir pourquoi, de fonctionner exactement de la même façon, quoi. Et d'avoir aussi les mêmes centres. Là, il vient de terminer le dernier album de Catherine, là, qui va sortir, ce qui est drôle. Moi, il y a 15 ans, je faisais Catherine. Et il a fait avec Philippe un album qui est au fond ce que moi je voulais faire avec Philippe il y a 15 ans, mais que lui il n'était pas du tout prêt. C'est-à-dire, Philippe il vient des écoles d'art, quoi. Moi, c'est toujours le problème que j'ai eu avec lui, c'est un peu le petit décalage qu'il y a entre, c'est pas Bézu, quoi. Et moi, j'aime vraiment bien Bézu ou Sim. Enfin, tu vois,
Bézu, c'est... Ah, Sim.
Non, mais ce genre de mec-là, si tu veux, j'ai aucun problème. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas mal travaillé avec ce genre des mecs comme Pieds Plus, Jean Lefebvre et tout. C'est des avions, quoi. Enfin, c'est peut-être un goût douteux, si tu veux, mais c'est des énormes professionnels, quoi. Ou Micheline Dax, ou ce genre de...
C'est des gens entiers, quoi.
Voilà. Et le côté chanson prout-prout, allez bien boire un petit coup à la maison. De toute façon, Philippe, il tournait autour. Et moi, j'ai toujours vu un lien, par exemple, dans la musique, même chez les Daft Punk, dans la musique électronique française, il y a un côté. Tout le monde est fasciné, en fait, par Carlos, Annie Cordy, ce genre de truc-là, si tu veux. Mais personne n'est arrivé. Madonna a essayé une fois avec Mirwell de faire un album avec un peu des paroles dessus, mais. Et de toute façon, voilà, donc on parle de la même chose. Et là, ils viennent de faire ce truc-là qui va sortir en octobre. C'est très drôle. Comme quoi, voilà, c'est, tout ça, c'est une même famille. Et ça sera toujours une même famille, je pense.
On écoute. Donc, on a parlé de liens que tu avais avec Philippe Catherine, là, qui était un lien un peu commun aussi avec ton frère Sébastien. Et tu as aussi des liens assez forts avec le cinéma.
Ouais.
Par exemple, j'ai vu ou j'ai cru voir que tu avais participé à des entretiens avec Strobé Huillier.
On l'a produit chez Rectangle. J'avais un label qui s'appelait Rectangle pendant des années où on a produit des trucs avec Philippe, justement Catherine et d'autres gens, quoi. Et on voulait marquer le coup. On a produit un triple album en vinyle d'entretien avec les Strobes.
Alors les Strobes
à la maison.
La musique chez les Strobes, j'ai pas de souvenir.
Ah, c'est central.
C'est central. Et en même temps, il y a un côté très sec, c'est-à-dire la voix est très très présente.
Moi,
j'ai un souvenir
paradoxe,
à chaque fois plutôt de la voix quand je pense au Strobe.
Ouais, le texte, la voix, le cadre, mais non, en même temps, tous leurs films, par exemple, le premier film, le bar film qu'ils ont fait, c'est un film qui a pris quoi, 15 ans de retard parce qu'il n'y avait pas de financement et qu'on voulait leur... Eux, ils avaient dès le début, ils ont découvert des gens qui ont ramené la musique ancienne, c'est-à-dire Arnoncourt, des gens comme ça, et bon, à l'époque, ils n'étaient pas suffisamment connus, il n'y avait pas de... Et ils ont attendu 15 ans jusqu'à faire le film qu'ils voulaient faire. Non, ils ont un truc... Je pense que c'est des gens qui montrent justement le travail de la musique. Ce film sur Bach, c'est quand même un des rares films où tu vois Bach, que c'est pas un artiste, ça n'existe pas les artistes à l'époque. Ça veut rien dire, un artiste, c'est un truc...
Alors ça, oui, ça, je crois que tu as par exemple ceci en commun aussi avec un Pasolini qui est quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'il y a tout un cycle là autour de Pasolini, qui est disons, mettre le plus à distance possible le mot artiste.
Ben non, mais intermittent, je sais ce que c'est, mais artiste, je sais pas ce que c'est, quoi. Et je suis pas intermittent depuis 15 ans, donc voilà, quoi. Non, mais c'est un métier, après, c'est un autre truc. C'est comme, la situation, elle est tendue en France, enfin, elle est tendue en Europe, elle est tendue économiquement, donc les gens se replient, donc il y a des guerres, il y a des trucs qui partent. Il y a des coûts qui partent aussi parce qu'il y a moins de place, il y aura pas de la place pour tout le monde. Et là, on parle d'un truc, par exemple, qui est la culture, mais la culture, ça n'a rien à voir avec la création, enfin, c'est sans lien avec la création, ou après coup, quand t'es mort, mais, tu vois bien, c'est, suffit juste d'être conscient de ça, quoi. Et c'est deux métiers différents qui sont éventuellement compatibles parfois, mais, par exemple, là, je vois des tensions où les gens, ils continuent à penser qu'en fait, par exemple, un ministère de la culture, c'est là pour soutenir la création. Ça n'a jamais été le cas. Historiquement, ça n'a jamais été le cas. Et c'est, moi, si le ministère commence à vouloir faire un truc, je cours dans l'autre sens.
Alors, s'il ne soutient pas la création, c'est quoi? C'est la culture d'État?
Il soutient un métier qui est la culture, qui est la diffusion.
Ouais.
Qui est le fait que les gens puissent aller voir des trucs. Mais des trucs qui sont déjà morts dans des boîtes, quoi. Pas des choses en train de se faire. Ça, il y a comme ça, il y a une histoire. À un moment, ils avaient fait dans la série Blanche Gallimard, à la fin, ils ont fait une intégrale de tous les textes critiques de Georges Bataille. Et il avait demandé une préface, il a fait une préface qui fait un tiers de page, en disant c'est bien sympa tout ça d'avoir mis en 10 volumes tous les trucs, mais il faut pas quand même oublier que quand ça vient n'importe comment, quoi.
Ouais.
Bon, donc voilà, c'est autre chose, c'est très bien, hein, c'est.
Et il y a aussi, par rapport à l'artiste, non, quelque chose qui se joue sans doute depuis au moins. Peut-être aller Andy Warhol, l'idée que finalement, s'il y a une personne qui est dépositaire de la possibilité de jouir d'une liberté, c'est l'artiste, quoi.
Ah, ça, c'est la fonction, je pense. On est là pour prouver que c'est possible. On est là pour prouver le contraire, ouais.
Prouver, mais pas en être le seul détenteur.
Ah non, non, mais prouver, je veux dire, pour les autres.
Mm.
Mais je pense que si on a inventé des choses comme la culture et l'art et qu'on l'a mis dans des musées, c'est pas juste pour admirer des œuvres, c'est aussi pour se prémunir d'un truc qui est très politique. C'est-à-dire, si demain tout le monde fait ce qu'il veut, ce pourquoi il est né quand même, à mon avis, c'est un bordel pas possible. Il n'y a plus rien de marche, quoi. Mais et nous, on est là pour dire que non, c'est pas vrai, quoi. C'est même ça qui est tout. Quand t'es dans cette vie que t'y as jamais pensé, parce que tu peux pas faire autre chose que ça, quoi, de cette manière. Enfin, moi, je suis incapable, au bout d'un quart d'heure, ça me... Donc la question, elle se pose pas. Je vois qu'il y a énormément de gens qui ont vachement envie, mais qui arrivent pas, quoi. Et ils arrivent pas pour des raisons qui sont finalement, sociales, culturelles, quoi. C'est-à-dire, quoi. Non, faut finir la vaisselle avant d'attaquer autre chose. Ben non, des fois, faut attaquer autre chose, et puis après, tu feras la vaisselle.
Et tu penses que la musique, par exemple, a des armes, ou que la musique peut, oui, peut-être un déclencheur, ou peut-être...
Ah oui, parce qu'elle est sensuelle, elle passe sous le sens, sous le radar du sens, quoi. Et c'est pas captable, c'est là où c'est dangereux, quoi. Non, mais l'autre jour, c'était la fête de la musique, c'est ça, à Marseille, là, ouais. Sur le port, il y avait, à un moment, il y a Patrick Sébastien avec les sardines, quoi. Ça, tu dis que les mecs et flics et CRS, je veux dire, ils calculent parce que là, ça peut partir en vrille totale, quoi. C'est-à-dire, là, il y a une espèce d'explosion de...
Et en même temps, c'est extrêmement, comment dirais-je, contrôlé, tout cela, quand même. Il y a toute une émotion qui paraît, comme ça, effectivement, déclenchée. Et en même temps, cet espace ouvert est aussi un espace extrêmement, maîtrisé, en même temps.
Ouais, c'est-à-dire qu'on essaye de te mettre... Tu vois bien, quand il y a ce genre d'événement, si tu vas voir le plateau, tu vas bien voir, il y a des vrais et puis il y a des faux, quoi. Il y a beaucoup de faux, quoi. Et puis tout d'un coup, t'as des mecs comme Adamo, qui a je sais pas quel âge, quoi, et que tout d'un coup, voilà, que t'aimes ou que t'aimes pas, ou que ça te touche pas, il se passe quelque chose, quoi. Au-delà de toute adhésion, tu vois, je sais pas, même sur des trucs politiques, quoi, t'as pas besoin d'aimer Enrico Macias pour voir que quand il commence à chanter un truc, il se passe quelque chose, quoi. Et il se passe quelque chose qui n'est pas maîtrisable par les gens, quoi. Et le truc de... Bon, Patrick Sébastien, après, c'est un sujet, on peut en discuter. Mais c'est pas un hasard, en même temps, s'il fait un carton à ce point-là dans ce domaine-là, parce qu'il touche à ça, quoi. Il va vraiment droit au but, puis il cherche pas à faire autre chose, quoi. Mais tout d'un coup, ce truc... Moi, je me rappelle de ça, là, d'avoir vu le truc des sardines comme une chanson à deux balles, et en même temps, qui est quand même un truc lié à la musique, quoi, de toucher à des choses basiques, quoi. T'as envie de...
Mais toi, en même temps, quand tu lis tout cela, et si demain, je sais pas, moi, Patrick Sébastien t'appelle et te dit, viens jouer sur le plateau, tu irais comme ça,
Ouais, moi, il y a un type que j'adore qui fait justement le croisement, qui est sur certains disques Big, tu vois, le label BYG, Big Actuel et tout ça, enfin qui était c'est l'époque de Caracos, de c'est l'époque actuelle avant que Bizo monte Actuel, cette époque là à un moment il y a toute une scène de free jazz fin 60, il y a eu un tas de gens, Sonny Sharrock, Archie Shepp, des gens comme ça qui étaient à Paris quoi, et ils ont monté à 4-5 un label qui existe, qui continue à se vendre quand on sort tous ces disques, parce qu'il y avait une espèce d'émulsion hein. Et dedans tu vas trouver un guitariste qui s'appelle Georges Locatelli qui faisait Total Issue avec Henri Texier, les groupes prog rock de cette époque là tu vois, et Locatelli il accompagnait Patrick Sébastien pendant 10 ans par exemple. Non, non, moi, ces mecs, j'ai jamais eu aucun... Je sais pas comment dire, ces gens, ils sont cash, quoi. Autant il y a plein de gens qui sont pas cash dès que tu vas dans les médias, autant il y a des gens... Il y a plein de gens qui peuvent détester Depardieu, mais à chaque fois, c'est triste, quoi. C'est triste parce qu'il est triste, parce qu'il fait ça par tristesse, si tu veux. Mais les gens, ils voient bien que ça joue pas, quoi. Et puis après, tu vas à Jean-François Copé, tu vois bien que ça joue, quoi.
Ouais.
J'sais pas... Qui c'est que j'ai dit?
Gérard Depardieu, un comédien magnifique, par exemple. On oublie hein, que souvent, par exemple, effectivement, quand on parle de Depardieu et qu'on parle, par exemple, d'un autre côté de Godard ou Duras, ouais. On pense qu'ils sont complètement à l'écart les uns de l'autre, alors que Depardieu a joué dans les films de Godard, il a joué dans les films de Duras, le camion, par exemple. Avec Depardieu.
Le camion, je veux dire que Duras, à l'appel de ce film-là, c'est un truc, voilà. Ça, c'est un message qui s'adresse à n'importe qui, quoi. Et il y a un truc. Par exemple, pourquoi un acteur comme ça, il est dangereux? Il est parce que ça parle directement aux gens. Parce que c'est pas un mec qui essaye de monter, de construire un personnage. C'est un mec que tu croises dans les bars, quoi. Et en vrai, c'est un mec que tu croises dans les bars. Et il est aussi con que le mec que tu croises dans les bars, mais il est aussi génial. Et lui, bon, en particulier, il est assez... Voilà, quoi.
Pat Martino.
Pat Martino, c'est un grand guitariste de jazz. Et moi, comme je viens de la guitare de jazz, je lui ai rendu hommage.
Pat Martino, guitariste.
Ouais, Pat, c'est une figure, c'est vraiment une grande figure. Enfin, bon, quand on s'intéresse à la guitare de jazz, ce qui arrive encore, c'est une figure, c'est un drôle, c'est une espèce d'alien, quoi. D'abord, techniquement, c'est quelqu'un qui a des capacités. Et puis, un drôle de personnage difficile à cerner, quand même. Un peu mad dog, un peu de mad scientist.
Alors, je disais guitariste comme toi.
Ouais.
Alors, guitare et toujours à la guitare.
Ouais, ouais.
Et il n'y a pas eu d'envie de la quitter, cette guitare?
Il n'y a pas eu de besoin, surtout. Non, non, comment dire? C'est pas un problème d'utiliser d'autres formes, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas... Je l'ai souvent fait, quoi. C'est-à-dire producteur ou... Je peux travailler de la même façon. Mais la guitare, ça reste vraiment mon... Je sais pas, peut-être comme un comédien qui vient du théâtre, à un moment où tu restes carrément au théâtre, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi.
Parce que c'est assez rare. Beaucoup ont commencé avec la guitare et l'ont abandonné. Et la guitare est partie. Ça fait partie d'un des instruments avec lesquels on commence.
Moi, j'ai passé
16
heures par jour à partir de l'âge de 8 ans. Et donc, c'est pas pour.
C'est pas pour la guitare.
Non, non, j'étais vraiment loin là-dedans. Et en même temps, il y a un truc. Bon, la guitare, c'est un instrument vraiment particulier parce que d'abord, c'est un instrument populaire. Quoi. Enfin, c'est un instrument que n'importe qui peut commencer la guitare. D'ailleurs, n'importe qui le fait. Et donc, ça crée une espèce de y a une communauté, quoi, t'as un rapport comme ça, parce qu'on est, c'est un instrument complètement rudimentaire, quoi, c'est vraiment, c'est des cordes tendues sur un bout de bois, quoi, et donc ça pose des questions immédiatement, et une fois de plus l'histoire du miroir, c'est-à-dire, bon, quand tu commences à travailler cet instrument, et qu'il y a plein de méthodes, il y a plein de gens qui ont eu dans différentes époques, sur 3-4 siècles, des idées très fortes, ou des choses très très, voilà, je sais pas, Jimi Hendrix, il a prouvé ça, un autre en a fait autre chose, etc. Mais c'est un instrument qui fait miroir, c'est vraiment, si tu veux aller plus loin, il faut que tu acceptes de quitter, c'est toi qui joues, il y a pas d'autre, c'est pas quelqu'un d'autre qui va jouer à ta place, et donc il faut traverser ce miroir, quoi, pour utiliser justement peut-être tes points faibles pour en construire, en créer quelque chose, quoi.
Dans un entretien où tu parlais du cinéma, tu disais que c'était dommage qu'il n'y avait pas pour la musique un peu un geste équivalent à ce qui a été réalisé par Godard sur les histoires du cinéma, c'est-à-dire
ah ouais.
une histoire de l'histoire par l'histoire.
Ouais.
Et tu disais quel dommage qu'en musique on n'ait pas l'équivalent.
Non, mais le point de Godard, il est quand tu le prends vraiment au pied du mot, à la lettre, quoi, il est très très fort. Il a dit, voilà, le cinéma aurait pu montrer ce que c'est... voilà. D'ailleurs, il l'a montré. Enfin, je veux dire, quand à un moment, tu vois que les Américains, ils filment, ils commencent l'Agfa Color pour filmer la sortie des camps. Bon, c'est on peut te le dire, mais si à un moment on te le montre, ça quand même un... Et la musique, c'est pareil. Il y a toute une histoire qui est absolument pas faite, quoi. Et puis après, il y a plein de, voilà. Donc on laisse ça à des gens qui ont des raisons politiques de refaire un peu l'histoire. C'est un truc que tu vois assez vite, c'est-à-dire que les gens, il y a des histoires qui sont attachées à tel milieu pour bien s'assurer que ceci est machin. Mais dans la réalité, c'est pas... quand tu vois par exemple des périodes, je sais pas, le CBGB, toute cette époque punk où tu passes des New York Dolls à Richard Dell, au Ramones, c'est ça. La réalité de ce truc-là, c'est pas du tout... C'est tout d'un coup, il y a une espèce de champignon énorme qui fait des ravages avec des gens qui viennent de partout et il se passe quelque chose là. Et ce truc-là, la musique, c'est son... Il y a pas, tu peux mettre des mots sur la musique, mais c'est pas très intéressant. Enfin, des chansons, c'est autre chose, mais ça sert à rien d'expliquer ce que c'est que la musique. La musique, c'est son propre langage, c'est l'expérience. T'écoutes un truc et ça provoque quelque chose chez toi, quoi. Ben, on pourrait faire une musique du son par le son, quoi.
Une musique du son par le son.
Ouais.
Et par exemple, est-ce que la musique raconte des histoires? Parce que souvent, si on prend le travail que tu... la manière dont tu un peu explicite le lien, ou comment, à un moment donné, le travail que tu as fait avec la musique de Kelly, où tu dis, ouais, y a une fiction qui se joue, c'est moi, c'est pas moi, il y a toute une histoire qui se lie en fait à une sorte de dialogue de elle à toi et de toi à elle, d'une certaine manière, et souvent... tes musiques sont prises dans une histoire. Alors, est-ce que la musique peut raconter des histoires?
Ah, moi je pense qu'elle raconte. Ah, ouais. Oh, bah, y a plein d'exemples. Hein, de... Là, si tu prends La Nuit Transfigurée de Schoenberg, ça dit quand même quelque chose qui va arriver, quoi, et longtemps avant. C'est, tu l'entends, tu... c'est pas dit dedans littéralement, mais enfin, tu sens bien que quelque chose se passe, quoi. Il y a une nuit qui tombe. Il y a quelque chose qui se... L'histoire de Kylie, par exemple, c'est une autre histoire. Moi, c'est lié à ma pratique, c'est-à-dire, je suis un soutier. Je suis un ouvrier, je suis un OS de la musique, et c'est comme ça que ça se passe. Et quand t'es en face, quand t'accompagnes ce genre de personnes-là, c'est des gens qui transcendent les choses. Quand t'accompagnes ce genre de chanteur, les gens, ils achètent leur place, et pour voir cette personne-là, ils ont rien à foutre des gens. Des fois, il y a un musicien derrière qui connaissent vaguement, enfin certains 10%, 5%. Et quand toi, par contre, t'es là pour soutenir ce truc-là, c'est-à-dire que les gens, ils ont payé une place pour voir cette personne briller, et toi, t'es là pour soutenir, pour faire que cette personne, elle brille, ça change totalement ton jeu, ça a des effets... Voilà. Accompagner un chanteur, ça a vraiment des effets, quoi. C'est, par exemple, je sais pas moi, à l'époque de Bachung, c'est quelqu'un qui changeait vraiment ton jeu, quoi. Je sais pas comment dire, il y avait une telle intensité et une telle présence que t'es là pour le soutenir, lui, quoi. Et cette force-là, elle te met à nu.
La relation qui se joue influe, bah ouais, sur la musique même.
Ouais, quoi. T'es là pour faire... Mais c'est un même truc. Il y a une histoire comme ça qui circule depuis longtemps de Thelonious Monk, qui avait son quartet, qui jouait je sais pas quoi 15 jours dans un club. Puis un soir, le batteur habituel du groupe pouvait pas. Donc c'est un batteur qui remplace, et le mec il flippe un peu. On lui demande. Et donc à un moment, il demande. Parce que Monk lui dit rien. Et Monk, il demande à Monk, qu'est-ce que tu veux? Il fait Make me sound good. C'est ça, quoi.
Et cette histoire des. Donc on pourrait imaginer une histoire de la musique par la musique.
Oui. Il y a un truc assez injuste comme ça dans la vie, mais peut-être tu l'as expérimenté. Par exemple, il y a un truc quand tu bosses, quand t'es avec des bons, tu deviens bon, tu deviens meilleur. Quand t'es déjà, quand t'es avec des vrais gens intelligents, tu deviens, t'as l'impression d'être vachement plus, de comprendre vachement plus de. Et quand t'es avec des cons, tu t'énerves, tu deviens méchant, tu deviens aussi con. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Bon, ça, dans la pratique, moi, je sais pas, aussi bien dans le cinéma que, je sais pas, je me rappelle de 3 semaines de tournage avec un mec comme Michael Lonsdale. T'as l'impression d'être zen, d'être intelligent, mais c'est juste lui, quoi, qui génère ça, quoi.
Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le cinéma? Par exemple, là, tu as travaillé sur la musique du film Les Innocents, je crois.
Les Invisibles.
Les Invisibles, pardon. Qu'est-ce qui t'intéresse un peu dans le cinéma?
Je pense qu'il y a un truc qui est assez proche de... Le cinéma, c'est un... Donc c'est une forme technique nouvelle qui a amené des possibilités, un peu comme la guitare électrique. Tu vois, la guitare électrique, à un moment, elle arrive dans les années 50 aux États-Unis en même temps que le toaster, la télé, le machin. Donc n'importe qui prend une et puis fait des groupes, puis ça fait du garage rock. Le cinéma, c'est un peu ça, quoi. Tous les gens, par exemple, en France, toute l'histoire de la Nouvelle Vague, c'est des gens qui auraient pu finir en étant des auteurs dans la série Blanche de Gallimard. Bon, mais ils ont fait des films à la place. Et en même temps, en prenant un risque, quoi, tu vois.
C'est le côté enfance de l'art, quoi.
Ouais. Mais aussi le côté bougnoule hybride, quoi, c'est-à-dire... tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est-à-dire, bon, c'est pas du... C'est drôle, les Américains, on était mangés sur Vieux-Port et ils me demandaient c'est quoi la musique de Marseille. C'était super difficile de... C'est une façon de faire les choses, quoi. Voilà. Et qui est un espèce... Qui est un goulash... un goulash à la rissa avec un tas de trucs dedans et... Mais tout ça, en plus, de très longue date, totalement naturel, quoi.
En fait, ça ne se décrit pas, ça s'écoute ou ça se
vit. Ça se goûte, ouais.
Ouais. Comme Godard qui disait, ça ne se dit pas, ça s'écrit.
Ouais.
Ça ne se dit pas, ça s'écoute, genre de choses. Ouais.
Ouais.
Ouais. Richard Pinasse.
Ouais.
Richard Pinasse.
Ah, vous connaissez pas Richard. Alors Richard Pinasse, c'est un mec assez culte dans les milieux de ce qu'on appelle le prog rock. C'est les débuts de Magma, c'est un peu avant. Il a un groupe qui s'appelle Eldon, qui reste un groupe culte pour plein de gens. Peut-être en France, on a un drôle de rapport avec ça, mais par exemple aux États-Unis ou au Japon, c'est des trucs vraiment... c'est pareil que Sylvie Vartan ou des trucs comme ça, quoi, pour eux. Quoi.
D'accord.
Et ça c'est jamais tombé, quoi. Pour eux, ça c'est vraiment... Mais tu sais, il y a toujours ce décalage. Par exemple, Brigitte Fontaine, c'est quelqu'un de vraiment important au Japon, quoi.
Mais c'est vrai.
Et en France, bon... Je sais, pour certaines personnes ça l'est, pour d'autres ça l'est moins, quoi. Et donc c'est toute une époque comme ça qui est liée à mai 68 aussi, qui est une époque où la musique électrique arrive, des gens essayent un tas de trucs dans tous les sens, ils essayent autre chose, on est dans une espèce de début de post-rock déjà où on essaye de faire autre chose, quoi, avec ce rock là on veut jouer électrique mais pas forcément le rock basique qu'il y avait avant. Lui il vend tout son matériel, il achète des synthés, il se met à faire une musique électronique assez pionnière, quoi, qui a marqué vraiment plein de gens. Et puis il se trouve que voilà, il a une soixantaine d'années et qu'on s'est croisé il y a pas longtemps et que j'ai l'impression que je le connais depuis toujours. Et donc j'ai participé à un album avec lui là qui vient de sortir, un peu au pied levé, quoi. Et là on prépare en août, on enregistre en fait un double album tous les deux.
Donc là c'est tout bientôt.
Voilà. Et ça c'est Desolation Row en fait, le dernier album qui vient de sortir.
Noël Achoté, avec toutes ces musiques que tu nous fais entendre, on entend la manière dont tu es peuplé, en fait. ce qui est assez extraordinaire, parce que finalement on passe du solo au soli, c'est des solos peuplés d'une certaine manière, et tu es peuplé de plein de musiques qui nous peuplent aussi, c'est-à-dire des musiques qui appartiennent aussi à l'histoire de la musique, des musiques qui sont partagées soit par le plus grand nombre, soit des musiques parfois oubliées, des musiques plus mineures, disons. Mais la question, à chaque fois, tu me dis, pour Camille, ou pour Machaud, ou pour Richard, ce sont des artistes qui viennent, d'une certaine manière, individuer la musique. C'est-à-dire qu'ils opèrent un geste qui fait que s'opère quelque chose de l'ordre d'un inédit, une forme nouvelle apparaît.
Mais c'est toujours ça.
Alors, la question, ce serait aujourd'hui... est-ce qu'on est condamné d'une certaine manière, c'est pas forcément un mal, hein, mais est-ce qu'on est condamné à uniquement d'être dans un travail de revisitation, ou est-ce que tu vois aujourd'hui des artistes qui apportent quelque chose qui est radicalement nouveau et qui ne soit pas, comment dirais-je, pris dans une revisitation de l'existence?
Mais en fait, la nouveauté, elle est toujours liée à l'individu, parce que le matériau, c'est toujours le même, en fait. À chaque fois qu'un truc radicalement neuf est arrivé, c'est un truc qui existait bien longtemps avant, mais qu'on avait oublié que ça existait.
C'est du chant qui fait le vitrail, quoi.
Ouais, ou je pense à d'autres choses, mais oui. Et ce qui fait la différence, c'est que quelqu'un l'habite et le fait vivre, quoi. Et que tout d'un coup, t'es en face d'un truc, tu te dis « Ah, merde !» Ou même, j'y avais... Moi, je me rappelle de ça quand j'étais gamin, quand les premiers trucs de Scratch avec Herbie Hancock, la Rocket... Quand j'ai entendu ça, c'est un truc auquel je pensais. J'avais l'impression de l'avoir toujours connu, mais personne n'avait été capable de le mettre en forme à ce point-là aussi clairement, quoi. Mais c'est toujours de cette façon. Après, il y a rien de radicalement neuf, en fait. Enfin, je veux dire, si tu prends du recul et que tu fais un travail historique, tu vas voir que tout est lié. Quand je parle de Machaut ou Brigitte Fontaine, c'est la même ligne, c'est les mêmes gens. Enfin, c'est vraiment du même ordre, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de... Les thèmes sont toujours les mêmes. Ce qui fait la différence, je ne sais pas, quand Ramon Christophe, il se met à chanter de la chanson de plage, c'est Tino Rossi, c'est tout ça, quoi. C'est un truc que tu as entendu 150 fois, sauf que lui, il ne le chante pas pareil. Et il l'incarne. Et en l'incarnant de façon différente, il fait aussi, c'est comme un rayon de soleil qui vient faire un angle dans un truc à toi que t'avais peut-être laissé flou, mais si ça te touche, tout d'un coup tu te dis, ah mais oui, mais c'est là où c'est la nouveauté, pas sur le, je sais pas, pareil, peut-être le truc de Daft Punk qui est le dernier album là, le Ram, là, qui est d'une certaine façon assez presque nostalgique, quoi, quand même, d'une époque. Il est, je le trouve, d'un côté il remet les choses au clair sur d'où on vient, et de l'autre côté il balance une flèche, on sait pas où elle va, quoi. Parce que je sais que ce truc là il génère un tas de choses chez des gens qui sont jeunes maintenant, qui vont en faire on ne sait pas quoi. Mais après, la nouveauté sur la forme, non, c'est une blague, quoi. Enfin, je veux dire, le bidet du chant, où si tu vas à Stone Age, là, tu vas voir des menhirs, c'est pas très différent, ouais. C'est juste pas la même... C'est juste qu'on a mis l'angle, mais c'est jamais quelque chose que t'inventes, quoi.
Noël Axeté, on t'a un peu kidnappé de ton travail en ce moment à la Friche, puisque tu es juste en bas dans un box de l'ami pour donc travailler sur le concert qui aura lieu jeudi 4 juillet.
Ouais.
On te remercie d'être venu nous rendre visite.
Ben, merci de m'avoir accueilli.
Et je crois que tu vas aller rejoindre tes camarades, non?
Exactement. Pour une deuxième partie de soirée.
merci Noël.
Merci.
Vous venez d'entendre un entretien avec Noël Axeté, venu nous rendre visite dans les studios de Radio Grenouille à l'occasion de son passage au festival Mimi.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.